Chapitre 4. Peau. 1. Il leur fallut faire sans feu non pas pendant une ou deux nuits, mais pendant trois nuits d'affilée. La dernière fut la plus longue, les 12 heures les plus misérables de la vie de Susanna.
« Est-ce que la nuit de la mort d'Eddie ?»
se demanda-t-elle au plus dur de l'épreuve.
« Tu es vraiment en train de dire que ce que tu vis en ce moment est pire que de rester allongé éveillé dans un de ces dortoirs, sachant qu'il en serait ainsi pour toujours? Pire que de lui laver le visage et les mains et les pieds? Que de les lui laver pour le mettre en terre ?»
Oui, c'était pire. Elle détestait la conscience qu'elle en avait et ne pourrait jamais l'admettre à qui que ce soit d'autre qu'à elle-même, mais le froid intense et infini de cette dernière nuit était bien pire. Elle en venait à redouter le moindre souffle de la brise montant des terres de neige vers l'est et le sud. C'était un constat à la fois terrible et qui forçait l'humilité de mesurer combien le malaise physique pouvait empiéter sur tout le reste, se répandant comme un gaz mortel jusqu'à occuper tout l'espace, jusqu'à prendre possession de tout le terrain de jeu. Le chagrin? Le deuil? Qu'étaient ces sentiments quand on les comparait au froid en marche, partant de vos doigts et de vos orteils, rampant le long de votre putain de nez pour aller où? Vers le cerveau, si cela vous sied, et vers le cœur. Sous la main glacée d'un froid pareil, le chagrin et le deuil n'étaient que des mots. Non, même pas, que des sons. Rien que du bruit vide de sens, quand on était assis là à grelotter sous les étoiles, à attendre un matin qui ne viendrait jamais. Ce qui rendait les choses pires encore, c'était de sentir la présence autour d'eux de tous ces feux de joie potentiels, car ils avaient atteint cette région vivante que Roland appelait l'entre-neige. Il s'agissait d'une enfilade de longues pentes herbeuses, même si l'herbe était surtout blanche et morte en cette saison, et de vallées peu profondes où apparaissaient des bosquets d'arbres isolés et des ruisseaux à présent figés dans la glace. Plutôt, alors qu'il faisait encore jour, Roland lui avait montré plusieurs trous dans la glace, en lui racontant que c'était l'œuvre des cerfs. Il avait aussi repéré des tas d'excréments. À la lumière du jour, ces signes avaient leur intérêt, ils étaient même des signes d'espoir. Mais dans le fossé sans fond de la nuit, alors qu'elle écoutait le cliquetis régulier de ses dents qui claquaient, il n'avait plus aucun sens. Eddie ne signifiait rien. Jake non plus. La tour sombre n'avait aucun sens, ni le feu de joie qu'ils avaient fait brûler à la sortie de la ville fortifiée. Elle se rappelait de quoi il avait l'air, mais le souvenir de cette chaleur qu'il avait fait transpirer si fort, celui-là était totalement perdu. Comme quelqu'un qui est mort quelques instants et a eu un aperçu d'une autre vie lumineuse et fantastique, elle ne pouvait que dire que ça avait été merveilleux. Roland était assis à ses côtés et l'entourait de ses bras, laissant parfois échapper une toux rauque et sèche. Susanna se dit qu'il était peut-être en train de tomber malade, mais même cette idée n'avait aucune emprise sur elle. Le néant, hormis le froid. À un moment, juste avant que l'aube ne vienne finalement allumer le ciel à l'est, elle vit des étincelles oranges virevolter au loin, droit devant eux, au-delà de l'endroit où la neige se mettait à tomber. Elle demanda à Roland s'il avait la moindre idée de ce que c'était, ce qui ne l'intéressait pas vraiment, mais entendre sa propre voix la rassura en lui confirmant qu'elle n'était pas morte, pas encore du moins.
« Je pense que ce sont des Hobbes. »«
Qu'est-ce que c'est ?»
Maintenant, elle ne pouvait plus articuler un son sans bégayer et claquer des dents.
Je ne sais comment te l'expliquer, et ce n'est vraiment pas la peine. Tu verras bien l'heure venue. Pour l'instant, si tu écoutes attentivement, tu entendras quelque chose plus près, quelque chose de plus intéressant.
Elle n'entendit d'abord que le soupir du vent. Puis il se tut. Et elle perçut le bruissement sec de l'herbe sous le pas d'un animal. Puis, un craquement sourd, et Susanna sut exactement de quoi il s'agissait. D'un sabot perforant la fine pellicule de glace, révélant l'eau vive au monde glacé de la surface. Elle savait aussi que dans les 3 ou 4 jours, elle porterait sans doute un manteau fait de l'animal qui buvait en ce moment même non loin d'eux, mais cette idée n'avait aucun sens, elle non plus. Le temps n'était qu'un concept inutile quand on était assis dans le noir, dans une douleur lancinante. Elle croyait avoir eu froid auparavant? Drôle d'idée, pas vrai?
« Et Mordred ? »
demanda-t-elle.
« Tu penses qu'il est dans le coin ?»«
Oui. »«
Et qu'il ressent le froid comme nous ?»«
Je ne sais pas. »«
Je n'en peux plus, Roland. Vraiment, je n'en peux plus. »«
C'est terminé. L'aube est proche et je pense que demain nous aurons un feu à la tombée de la nuit. » Il toussa dans son poing, puis repassa le bras autour de la jeune femme. « Tu te sentiras mieux quand on sera debout et occupé. En attendant, au moins, on est ensemble. »
2. Mordred avait effectivement aussi froid qu'eux, jusque dans ses os, et lui n'avait personne. Il était assez près pour les entendre, cependant. Pas les mots précis, mais le son de leur voix. Il tremblait sans pouvoir se maîtriser, et il s'était tapissé l'intérieur de la bouche d'herbe, car il craignait qu'avec son ouïe subtile, Roland perçoive le claquement de ses dents. La veste de cheminot n'était d'aucune utilité. Il l'avait jetée quand elle était tombée en morceaux, en commençant par les coudes, et il avait balancé le tout dans l'herbe basse, près de la vieille route, avec un juron de colère. Il ne portait encore les bottes que parce qu'il avait réussi à tisser de la ficelle à partir d'herbes hautes. Il en avait saucissonné ce qui restait des godillots, les soudant à ses pieds. Il avait envisagé de reprendre sa forme d'araignée, sachant que ce corps-là supporterait mieux le froid. Mais sa courte vie tout entière avait été hantée par le spectre de la famine, et il supposait qu'une partie de lui la craindrait toujours, peu importe la quantité de nourriture qu'il aurait sous la main. Les dieux savaient qu'il n'y en avait pas beaucoup en ce moment. 3 bras coupés, 4 jambes, dont 2 en partie mangées, et un morceau de torse tiré du panier en osier. Et c'était tout. Et s'il se transformait ? L'araignée gobrait cette maigre pitance avant l'aube, et bien qu'il y eût du gibier tout autour, il entendait les mouvements du cerf aussi clairement que son papa blanc. Mordred n'avait pas entièrement confiance en ses capacités à le piéger ou à l'attraper. Aussi restait-il assis à grelotter, en écoutant le son de leurs voix jusqu'à ce que les voix se taisent. Peut-être dormait-il. Il aurait pu somnoler un peu lui-même. Et la seule chose qui le retenait de céder et de faire demi-tour, c'était la haine qu'il ressentait pour eux. La haine de les savoir ensemble, quand lui n'avait personne, jamais personne. « Mordred l'offin, » pensa-t-il, malheureux. « Mordred l'eau froid, et Mordred l'eau personne, Mordred est seul. » Il s'enfonça le poignet dans la bouche, mordit très profond et aspira le flot chaud qui coulait. Dans ce sang, il savoura le dernier souffle de Rando pensif, mais si faible, si vite évanoui. Et il ne lui resta bientôt plus que le goût inutile et recyclé de sa propre chair. Et dans le noir, Mordred se mit à pleurer. 3. 4 heures après le lever du jour, sous un ciel blanc qui promettait de la pluie ou de la neige, peut-être les deux en même temps, Susanna Dean était allongée derrière un tronc d'arbre mort, grelottante, à scruter l'une des petites vallées.
« Tu entendras ôté, » lui avait dit le pistolero, « et tu m'entendras moi aussi. Je ferai de mon mieux, mais je les repousserai devant moi pour que tu aies le meilleur angle de tir. » Fais en sorte que chaque coup porte. »
Ce qui compliquait les choses, c'était cette intuition sourde que Mordred était tout prêt à présent et qu'il pourrait essayer de lui tendre une embuscade pendant qu'elle avait le dos tourné. Elle regardait constamment autour d'elle, mais ils avaient choisi un lieu relativement dégagé, et elle n'avait rien vu dans l'herbe derrière elle, sauf une fois un gros lapin brun galopant gauchement, ses grandes oreilles traînant au sol. Elle finit par entendre les aboiements haut perchés d'Othée dans le bosquet d'arbres à sa gauche. Une seconde plus tard, Roland se mit à hurler.
« Ia! Ia!
Ardila! Ardila, te dis-je! Ne tarde jamais! Ne tarde pas une seule !» Puis il eut une quinte de toux. Elle n'aimait pas cette toux. Non, pas du tout. Elle discernait à présent du mouvement dans les arbres, et pour l'une des rares occasions depuis que Roland lui avait fait admettre qu'il y avait quelqu'un d'autre se cachant à l'intérieur d'elle, elle convoqua Detta Walker.
« J'ai besoin de toi. Si tu veux avoir chaud un jour, tu as intérêt à calmer mes mains, que je puisse tirer droit. »
Et le tremblement incontrôlable de son corps cessa. Lorsque la harde de cervidés surgit des arbres, et pas une petite harde, il y en avait bien 18 menées par un mâle avec une ramure somptueuse. Ses mains, elles aussi, s'arrêtèrent de trembler. De celle de droite, elle tenait le pistolet de Roland à crosse de bois de santal. Othée surgit soudain, talonnant le dernier traînard. C'était une biche mutante qui courait, avec une grâce étrange, sur 4 jambes de longueurs inégales, tandis qu'une 5e lui pendait mollement au milieu du ventre, comme un pie. Et enfin apparut Roland, sans plus courir vraiment, plus maintenant, mais plutôt trottinant, titubant. Elle l'ignora, visant le mâle et attendant qu'il se trouve dans sa ligne de mire.
« Par ici, » murmura-t-elle, « tourne à droite, mon biquet, que je te vois faire, comme à Comala. »
Et bien qu'il n'eût aucune raison de la faire, le mâle guidant sa petite harde en fuite vira légèrement en direction de Susanna. Elle se sentait à présent remplie de ce froid bienvenu. Sa vision parut s'affiner jusqu'à voir la tension des muscles sous la peau de l'animal, le croissant blanc quand ses yeux roulèrent, la blessure ancienne à l'intérieur de l'une des biches voisines, là où la fourrure n'avait jamais repoussé. Elle regretta une seconde qu'Eddie et Jack ne fussent pas à ses côtés, ressentant ce qu'elle ressentait, voyant ce qu'elle voyait. Puis ce sentiment s'évanouit lui aussi.
« Je ne tue pas avec mon arme. Celle qui tue avec son arme a oublié le visage de son père. Je tue avec mon cœur, »
murmura-t-elle avant de faire feu. Sa première balle toucha le dit corps et il s'effondra sur le flanc gauche. Les autres filèrent de part et d'autre de son cadavre. Une biche l'enjamba d'un bond et la deuxième balle de Susanna la frappa à l'apogée de son seau, de sorte qu'elle tomba raide de l'autre côté, une patte cassée, tordue à angle droit, sans plus aucune grâce. Elle entendit Roland faire feu à 3 reprises, mais ne le chercha pas du regard. Elle avait assez de pain sur la planche de son côté et elle comptait s'en occuper correctement. Chacune des 4 balles restant dans le barillet cueillit un cerf, et un seul bougeait encore au moment de sa chute à terre. Il ne vint pas une seconde à l'idée de la jeune femme que c'était là une série de tirs exceptionnels, surtout avec un pistolet. Elle était pistolero, après tout, et tirer était son boulot. De plus, c'était un matin sans vent. La moitié de la harde gisait à présent à terre dans la vallée herbeuse en contrebas. Tous les rescapés, sauf un, obliquèrent vers la gauche et se mirent à dévaler la pente en direction du ruisseau. Une seconde plus tard, ils étaient à couvert du rideau de saule. Le dernier, un fan de l'année, fonça directement vers elle. Susanna ne prit pas la peine de recharger avec le petit tas de balles posé près d'elle sur un carré de peau de cerf, mais s'empara d'un des Rizza, sa main trouvant à l'instinct le point de prise idéal.
« Rizza !»
s'écria-t-elle en lançant. Le plat s'éleva au-dessus de l'herbe brûlée dans son étrange gémissement. Il frappa le fan en pleine course à hauteur du garrot. Des gouttelettes de sang volèrent en guirlande autour de la tête de l'animal, noir sur fond de ciel blanc. Un couperet de boucher n'aurait pas fait entaille plus nette. Le fan continua de courir pendant quelques instants, sans tête et sans but. le sang jaillissant du moignon de son cou, tandis que son cœur épuisait ses derniers battements. Puis il tomba à genoux sur ses antérieurs écartés à moins de 10 mètres de la cachette de Susanna, souillant de rouge vif l'herbe jaune et drue. Le long calvaire de la nuit précédente était oublié. L'engourdissement de ses mains et de ses pieds avait disparu. Elle ne ressentait ni chagrin, ni poids du deuil, ni peur. Susanna était en cet instant exactement la femme que le cas avait fait d'elle. L'odeur de poudre et de sang mêlé s'élevant du cerf était aigre. C'était aussi le plus doux parfum au monde. Se redressant sur ses moignons, Susanna tendit les bras, serrant fermement le pistolet de Roland dans son poing droit et décrivit un Y dans le ciel. Puis elle poussa un hurlement. Il n'y avait pas de mots, car aucun ne lui vint. Nos plus grands moments de triomphe sont toujours inexprimables. 4. Roland avait insisté pour qu'il prenne un énorme petit déjeuner, et l'argument de Susanna selon lequel la viande en gelée avait à peu près le même goût que de la bouillie aux grumeaux ne fut d'aucun effet sur lui. Lorsqu'arriva 2 heures de l'après-midi, à en croire sa montre goussée de chauchotte, à peu près au moment où la pluie froide et continue avait tourné au gros crachin de neige fondue, en somme, elle se sentait heureuse. Jamais elle n'avait connu une journée aussi éprouvante d'un point de vue physique, et la journée n'était pas finie. Roland était à ses côtés tout le long, lui rendant effort pour effort en dépit de sa mauvaise toux. Elle eut l'occasion, au cours de leur bref mais divin repas de midi, composé de steaks de cerf grillé, de constater combien cet homme était étrange et remarquable. Après tout ce temps et toutes ces aventures, elle était encore loin de connaître le fin mot de son caractère, très loin. Elle l'avait vu rire et pleurer, tuer et danser, elle l'avait vu dormir et s'accroupir derrière un bouquet de buissons, le pantalon aux chevilles et le derrière au-dessus de ce qu'il appelait le tronc d'aisance. Elle n'avait jamais couché avec lui comme une femme avec un homme, mais elle croyait l'avoir vu dans presque toutes les autres circonstances. Et non, elle n'en connaissait toujours pas le fin mot.
Cette toux, pour moi, ça ressemble de plus en plus à une pneumonie,
fit-elle remarquer, peu de temps après que la pluie se fut mise à tomber. Il se livrait alors aux activités du jour que Roland appelait avant-quart, emporter le gibier tué et le préparer pour la transformation.
Ça ne t'inquiète pas, j'ai fait ce qu'il faut ici pour le soigner.
« Tu dis vrai ?»
demanda-t-elle sur un ton dubitatif.
« Oui, là. Et ces choses-là que je veuille à ne pas perdre. »
Il fouilla dans sa poche et en sortit une poignée de cachets d'aspirine qui lui exhiba. Elle lut sur son visage une expression de véritable vénération. Et pourquoi pas, après tout ? Il n'était pas impossible qu'il dût à la vie à ce qu'il appelait l'astine. À l'astine et au chevelet. Ils chargèrent leur butin à l'arrière du taxi de luxe de Hoffa et le traînèrent jusqu'au ruisseau. Il leur fallut 3 voyages en tout. Après avoir entassé les carcasses, Roland plaça soigneusement la tête du dernier faon sur la pile, d'où elle contempla les 2 pistoleros avec des yeux hébétés.
« Qu'est-ce que tu fais avec ça ?»
demanda Susanna avec une pointe de détat dans la voix.
« On va avoir besoin d'un maximum de cervelle, tout ce qu'on pourra trouver, » dit Roland, avant de tousser une nouvelle fois dans son poing. « Ça n'est pas le moyen le plus propre de faire le boulot, mais c'est rapide et ça marche. »
5. Une fois qu'ils eurent empilé leur prise au bord du ruisseau gelé, « au moins, on n'aura pas à s'inquiéter des mouches, » avait fait remarquer Roland. Le pistolero entreprit de ramasser du bois mort. Susanna avait hâte de pouvoir se retrouver près du feu, mais le besoin impérieux qu'elle avait ressenti la nuit précédente avait disparu. Elle avait travaillé dur, et pour le moment du moins, elle avait assez chaud. Elle essaya de se remémorer la profondeur de son désespoir. la manière qu'avait eue le froid de ramper jusqu'à sa moelle, transformant ses os en glace, et elle n'y parvint pas. Car le corps avait cette faculté d'oublier le pire, supposait-elle. Et sans la coopération du corps, tout ce dont disposait le cerveau, c'était de souvenirs semblables à des photos jaunies. Avant de se mettre à la récolte du bois, Roland inspecta la rive du ruisseau gelé et déterra un morceau de roche. Il le lui tendit, et Susanna passa le pouce sur sa surface laiteuse, lissée par l'eau.
« Du quartz ?» demanda-t-elle.
Mais il lui semblait que non, pas tout à fait du quartz.
« Je ne connais pas ce mot, Susanna. Nous l'appelons « chert ». Il permet de faire des instruments primaires, mais très utiles, des têtes de hache, des couteaux, des broches, des grattoirs. Ce sont les grattoirs dont nous avons besoin. Et au moins un marteau à la main.
Je sais ce qu'on va gratter, mais qu'est-ce qu'on va marteler?
Je te montrerai, mais tu veux bien me rejoindre ici un moment tout d'abord?
Roland se mit à genoux et prit la main froide de Susanna dans la sienne. Tous deux, ils se placèrent en face de la tête de serre.
« Nous te remercions pour ce que nous allons recevoir, »
dit Roland à la tête, et Susanna frissonna. C'est exactement ainsi que son père commençait à rendre les grâces avant un grand repas où toute la famille se trouvait réunie.
« Notre propre famille est brisée, »
se dit-elle, mais elle n'en dit rien. Ce qui était fait, était fait. La réponse qu'elle donna fut celle qu'elle avait apprise, petite fille.
« Père, nous te louons.
Guide nos mains et guide nos corps, alors que nous prenons la vie dans la mort, » poursuivit Roland.
Puis il la regarda, les sourcils arqués, lui demandant sans prononcer un mot si elle avait quelque chose à ajouter. Susanna se rendit compte que oui.
« Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
« C'est une jolie prière, » dit-il.
« Oui. »
acquiesça-t-elle.
Je ne l'ai pas dit exactement comme il faut, c'est loin tout ça, mais ça reste la meilleure prière. Maintenant, mettons-nous à la tâche, tant que je sens encore mes mains.
Roland lui donna un amen. 6. Roland reprit la tête coupée du jeune cerf. Les bois naissants facilitèrent la prise. La déposa en face de lui, puis frappa le crâne avec le caillou de la taille du poing. Il y eut un craquement étouffé qui fit se rétracter l'estomac de Susanna. Roland agrippa les bois et se mit à tirer, d'abord vers la gauche, puis vers la droite. Lorsque Susanna vit le crâne brisé onduler sous la peau, son estomac fit plus que se rétracter. Il décrivit au ralenti tout le parcours du Grand Huit. Roland frappa encore deux fois, maniant le morceau de chert avec une précision presque chirurgicale. Puis il se servit de son couteau pour découper un disque dans la peau du crâne qu'il retira comme une cagoule. La tête fracassée apparut. Il inséra la lame de son couteau dans la fissure la plus large et fit levier. Lorsque les méninges du cerf furent visibles, il les sortit de la boîte crânienne, les mit de côté avec précaution et regarda Susanna.
« Nous aurons besoin de la cervelle de tous les cerfs que nous avons tués, et c'est à ça que nous servira le marteau. »«
Oh !»
dit-elle d'une voix entrecoupée.
« La cervelle ?»«
Pour la pâte de tannage. Mais le chert ne sert pas qu'à ça, tu vas voir. »
Il lui montra comment cogner deux cailloux l'un contre l'autre pour en casser un ou les deux en gros segments lisses plutôt qu'en éclats grossiers. Elle savait que les roches métamorphiques se brisaient de cette manière, mais les schistes étaient en général trop fragiles pour faire de bons instruments, alors que cette roche-là était solide.
Quand tu obtiendras des fragments assez larges sur une tranche pour être tenus dans le creux de la main et fins comme une lame de couteau sur l'autre, mets-les de côté, ils feront de bons grattoirs. Avec plus de temps, on aurait pu confectionner des poignées, mais on ne le peut pas. Au coucher, nous aurons les mains bien abîmées.
Combien de temps crois-tu qu'il faudra pour avoir assez de grattoirs ?
Pas si longtemps que ça, répondit Roland. Le shirt se brise bien, d'après ce que j'ai entendu.
Tandis que le pistolero ramassait du bois mort pour leur feu dans un bosquet mélangé de saules et d'aulnes au bord de la rivière gelée, Susanna longea la rive en quête de Chert. Lorsqu'elle eut trouvé une douzaine de cailloux de bonne taille, elle dénicha un morceau de granit saillant du sol en une courbe polie par les intempéries. Elle se dit qu'il ferait une enclume parfaite. Le Chert se brisait en effet comme il fallait. Et le temps que Roland te rapporte son troisième gros chargement de bois, elle avait taillé une trentaine de grattoirs potentiels. Il confectionna un tas de petits bois que Susanna protégea en faisant écran avec ses mains. Il tombait désormais de la neige fondue, et bien qu'ils fussent en train de s'activer sous une épaisse couverture de feuillage, elle se dit qu'il ne faudrait pas longtemps avant d'être tous les deux trempés. Une fois le feu allumé, Roland s'écarta de quelques pas, tomba de nouveau à genoux et joignit les mains.
« Tu pries encore ?»
demanda-t-elle, amusée.
« C'est drôle, comme ce qu'on apprend dans l'enfance nous reste, » dit-il simplement.
Il ferma les yeux quelques secondes, puis leva les mains à hauteur de sa bouche et les embrassa. Le seul mot qu'elle l'entendit prononcer fut « Gane ». Puis il rouvrit les yeux et tendit les bras vers le haut, ouvrant les mains en un geste ravissant qui rappela à Susanna des oiseaux en train de prendre leur envol. Lorsqu'il reprit la parole, ce fut d'une voix sèche et factuelle, celle de Monsieur Jeugère.
C'était très bien. Donc, mettons-nous au travail.
7. Ils tissèrent de la ficelle à l'aide d'herbes hautes, exactement comme l'avait fait Mordred, et ils suspendirent le premier cerf, le décapité, par les membres arrière, à la branche la plus basse d'un saule. À l'aide de son couteau, Roland ouvrit le ventre, puis fouilla abondamment dans les entrailles et en retira deux organes rouges et dégoulinants que Susanna prit pour les reins.
« Contre la fièvre et la toux, »
dit-il en croquant dans le premier comme dans une pomme mûre. Susanna laissa échapper un gargouillis et se détourna pour contempler la rivière en attendant qu'il eût fini. Quand ce fut fait, elle le regarda découper des cercles à la naissance des pattes qui pendaient à l'articulation.
« Tu te sens mieux ?»
lui demanda-t-elle un peu mal à l'aise.
« Ça va venir, » répondit-il. « À présent, aide-moi à déshabiller ce gaillard. Il faudra garder les poils de la première peau. Il va nous falloir un bol pour notre pâte. Maintenant, observe. »
Il enfourna les doigts là où la peau tenait encore au corps par la fine membrane de graisse et de muscles, et il tira. La peau se déchira sans encombre jusqu'en dessous du ventre du cerf.
« Maintenant, fais pareil de ton côté, Susanna. »
La seule difficulté consista à glisser les doigts à l'intérieur de l'animal. Cette fois-ci, ils tirèrent tous les deux ensemble, et lorsque la peau fut redescendue jusqu'aux jambes pendantes, elle avait vaguement la forme d'une chemise. Roland la découpa avec son couteau, puis creusa un trou à l'écart du feu crépitant, mais toujours à couvert des arbres. Elle lui prêta main forte, se délectant de sentir la sueur lui couler sur le visage et le corps. Lorsqu'ils obtinrent un creux en forme de bassine d'environ 60 cm de diamètre et d'une quarantaine en profondeur, Roland le tapissa de la peau. Tout l'après-midi, ils se relayèrent pour dépecer les 8 autres cerfs qu'ils avaient abattus. Il importait de le faire aussi vite que possible, car lorsque la sous-couche de gras et de muscles sécherait, la tâche deviendrait plus lente et plus ardue. Le pistolero entretenait le feu qui brûlait haut et fort, la laissant ratisser les cendres. Lorsqu'elles avaient assez refroidi pour ne pas trouer la doublure de leur saladier, il les versait dans le trou. Depuis 5 heures de l'après-midi, Susanna souffrait cruellement du dos et des bras, mais elle ne ralentit pas la cadence pour autant. Roland avait le visage, le cou et les mains couverts de cendres, ce qui avait un petit côté comique.
« On dirait un joueur de jazz blanc déguisé en noir, » lui lança-t-elle à un moment. « Rastus Kuhn. »«
Qui est-ce ? » ?»«
Rien que le bouffon des blancs. Tu crois que Mordred est encore dans les parages, à nous regarder trimer ?»
Toute la journée, elle avait gardé un œil dans le dos au cas où.
« Non, »
dit-il en s'arrêtant pour souffler quelques instants. De la main, il écarta ses cheveux de son front, rajoutant une zébrure cendrée à l'ensemble, évoquant cette fois-ci à Susanna les pénitents du mercredi des cendres.
« Mais t'as vu qu'il est allé chasser pour son compte ?»«
Mordred Lofin, »
dit-elle avant d'ajouter.
« Tu dois pouvoir entrer un peu en contact avec lui, n'est-ce pas ? Assez du moins pour savoir s'il est là ou s'il est parti. »
Roland y réfléchit et dit simplement
« Je suis son père. »
8. Quand la nuit tomba, ils avaient devant eux un haut tas de peaux de cerf et une pile de carcasses décapitées et dépecées qui auraient sans doute été noires de mouches si le temps avait été plus clément. Ils se régalèrent à nouveau d'un repas pantagruélique de steak de venaison grésillant et absolument délicieux. Et Susanna eut une nouvelle pensée pour Mordred, quelque part dans l'obscurité, sans doute à manger son propre souper cru. Il avait peut-être des allumettes, mais il n'était pas idiot. S'ils apercevaient un autre feu dans les ténèbres, ils lui tomberaient dessus à la seconde. Et alors, pan 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 ! Adieu, mon petit gars l'araignée ! Elle sentit monter un étrange élan de compassion pour lui et se dit qu'il fallait qu'elle s'en méfie. À l'évidence, il n'en aurait pas eu autant pour elle et Roland si la situation avait été inversée. À la fin du repas, Roland essuya ses doigts graisseux sur sa chemise et dit
« C'était bon. »
« Ça, tu peux le dire. »
« Maintenant, allons sortir les cerveaux. Ensuite, on dormira. »
« Un à la fois ?»«
Oui. » Pour autant que je sache, on ne reçoit pas de cerveau par paquet de 10 à la naissance.
Pendant une seconde, elle fut trop surprise d'entendre l'expression dédie « par paquet de 10 » pour bien mesurer que Roland venait de faire de l'humour. Bancal, d'accord, mais de l'humour authentique. Puis elle réussit à feindre un petit rire.
« Très drôle, Roland. Tu vois ce que je veux dire ?»
Roland hocha la tête.
On dormira à tour de rôle et on fera un tour de garde, oui. Je pense que ça vaut mieux.
Le temps et la répétition finissaient toujours par payer. Elle avait désormais trop vu de boyaux à l'air pour s'émouvoir de la vision d'un peu de cervelle. Ils fracassèrent les têtes et se servirent du couteau de Roland, dont la lame était maintenant émoussée, pour écarter les segments de boîte crânienne et extraire les cerveaux de leur prise. Ils les mirent soigneusement de côté, comme un panier de gros œufs gris. Lorsqu'ils eurent fini de décerveler le dernier cerf, Susanna avait les doigts tellement enflés et douloureux qu'elle pouvait à peine les plier.
« Allonge-toi, » lui dit Roland. « Dors, je prends le premier tour de garde. »
Elle ne protesta pas. Étant donné son estomac plein et la chaleur du feu, elle savait que le sommeil ne se ferait pas attendre. Elle savait aussi qu'en se réveillant le lendemain, elle serait tellement courbattue que même s'asseoir lui serait difficile et douloureux. Mais pour l'instant, elle s'en moquait. Un vaste sentiment de satisfaction l'envahissait. Il était en partie dû au fait d'avoir un repas chaud dans le ventre, mais il n'y avait pas que ça, loin de là. L'essentiel de son bien-être provenait d'une bonne journée de travail acharné, rien de plus, rien de moins. Cette sensation qu'ils n'étaient plus en train de flotter à la dérive, mais qu'ils agissaient par eux-mêmes.
« D'où Jésus ?» se dit-elle. « Je crois que je vis républicaine avec l'âge. »
Une autre chose la frappa. Le calme. Aucun bruit hormis le souffle du vent, le murmure ouaté de la neige fondue qui commençait à s'apaiser et le crépitement de ce feu béni.
« Roland ?»
Assis à côté du feu, il se tourna vers elle en haussant les sourcils, l'air interrogateur.
« Tu ne tousses plus. »
Il sourit et hocha la tête. Elle emporta ce sourire dans le sommeil, mais c'est d'Eddie qu'elle rêva. 9. Ils demeurèrent 3 jours dans ce campement près de la rivière, et pendant tout ce temps, Susanna en apprit plus sur la pausserie qu'elle croyait jamais devoir en savoir, et bien plus qu'elle souhaitait réellement découvrir. En inspectant les alentours sur environ 2 kilomètres en amont et en aval du ruisseau, ils trouvèrent 2 bûches, une pour chacun d'eux. Ils trempèrent leur peau dans leur marmite de fortune, les imprégnant d'une soupe noire d'eau et de cendre. Puis ils placèrent leur bûche à angle droit de 2 troncs de saule, assez proches, afin de pouvoir travailler côte à côte, et raclèrent les poils à l'aide de leur grattoir en chair. Ils y passèrent la journée. Quand ce fut fait, ils écopèrent le contenu de leur marmite, retournèrent la doublure en pot et la remplirent de nouveau, cette fois d'un mélange d'eau et de cervelle écrasée. Cette doublure spéciale Frima était une nouveauté pour elle. Ils laissèrent les pots trempés dans cette mixture toute la nuit, et tandis que Susanna tissait du fil à coudre à partir de nerfs et de tendons, Roland aiguisa la lame de son couteau, puis tailla une 12 douzaine d'aiguilles dans de l'os. Il se retrouva les doigts en sang, à cause de 10 dizaines de petites coupures. Il se posa des cataplasmes de cendres et d'écorce et dormit ainsi, avec l'air d'avoir de grosses moufles gris-noires. Lorsqu'il les rinça le lendemain dans un ruisselet, Susanna fut ébahie de constater que les coupures commençaient déjà à cicatriser. Elle tenta de tamponner de cette mixture la plaie qui persistait au coin de sa bouche, mais le bouton se mit à piquer effroyablement, aussi s'empressa-t-elle d'aller le nettoyer.
« Je veux que tu m'arraches ce foutu truc !»
Roland secoua la tête.
« Laissons-lui encore un peu de temps pour cicatriser de lui-même.
Pourquoi ?»«
Inciser une plaie n'est jamais une bonne idée, à moins d'être absolument certain qu'il n'y a pas d'autre solution. Surtout pas ici, dans ce que Jack aurait appelé un bled pareil. »
Elle acquiesça, sans prendre la peine de corriger son bled en bled. Mais des images ignobles lui vinrent à l'esprit lorsqu'elle se coucha. Des visions de son bouton en train de s'étendre, lui effaçant le visage centimètre par centimètre, transformant toute sa tête en une tumeur noire, sanguinolente et recouverte de croûte. Dans la pénombre, de telles visions étaient monstrueusement convaincantes, mais elle était heureusement trop épuisée pour qu'elle la maintienne éveillée bien longtemps. Lors de leur 2e jour dans ce que Susanna devait bientôt appeler le camp des peaux, Roland bâtit une sorte de grande carcasse branlante autour du nouveau feu, bas et brûlant lentement. Ils firent fumer les peaux 2 par 2, puis les mirent de côté. L'odeur du produit fini était étonnamment agréable.
« Ça sent le cuir »,
pensa-t-elle en enlevant une à hauteur de son visage. Puis elle éclata de rire, parce que, après tout, c'était exactement ça, du cuir. Ils passèrent le 3e jour à monter, et c'est là que le pistolero dut s'avouer vaincu. Roland cousait à gros points à peine utilisables. Elle se fit la réflexion que les gilets et les jambières qu'il confectionnait tiendraient à peine 1 mois, 2 tout au plus, avant de commencer à tomber en morceaux. Elle était beaucoup plus douée. L'art de la couture lui avait été transmis par sa mère et ses 2 grands-mères. Elle avait commencé par trouver les aiguilles d'os de Roland effroyablement peu maniables, et elle avait pris le temps de se couvrir le bout du pouce et de l'index droit de petits morceaux de cuir noué. Elle put ensuite accélérer la cadence, et au milieu de l'après-midi de leur journée montage, elle prenait des vêtements de la pile de Roland et doublait les coutures du pistolero par les siennes, plus fines et plus serrées. Elle se dit qu'il y verrait peut-être une objection. Les hommes étaient fiers, mais il s'abstint, ce qui valait sans doute mieux. Il aurait vraisemblablement récolté une réponse de d'état à ses jérémiades et ses scrupules. Quand arriva leur 3e nuit au camp des peaux, ils avaient chacun un gilet, une paire de jambières et un manteau. Il disposait aussi d'une paire de moufles. Des engins énormes et assez ridicules, mais qui leur garderaient les mains au chaud. Et en parlant de mains, Susanna arrivait de nouveau à plier les doigts. Elle jeta un regard dubitatif aux peaux restantes et demanda à Roland s'il comptait passer une journée de plus à monter. Le pistolero réfléchit à la question, puis secoua la tête.
« Nous allons charger celles qui restent dans le taxi, je pense, avec une partie de la viande et des blocs de glace qu'on tirera de la rivière pour la conserver au frais. »«
Le taxi ne nous servira plus à rien quand on arrivera dans les zones enneigées, pas vrai ?»«
Non, en effet. Mais d'ici là, on aura transformé les peaux en vêtements et mangé la viande. »«
Tu ne peux pas rester ici plus longtemps, c'est ça, n'est-ce pas ? Tu l'entends appeler, la tour. »
Le regard de Roland se perdit dans le feu qui craquait, et il ne répondit rien. Il n'avait pas besoin de le faire.
« Comment on va tracter notre Guna une fois dans les terres blanches ?»«
On fera un travois, et il y aura plein de gibier. »
Elle hocha la tête et s'allongea. Il la prit par les épaules et la fit pivoter vers le feu. Il approcha son visage de celui de la jeune femme, et pendant un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Au lieu de quoi, il observa longuement sa plaie près de la bouche, surmontée d'une croûte épaisse.
« Alors ?»
finit-elle par demander. Elle aurait pu se montrer plus loquace, mais il aurait entendu le tremblement de sa voix.
« Je crois qu'il est un peu plus petit. » Une fois que nous aurons laissé les Maltaires derrière nous, il se peut qu'il guérisse de lui-même.
« Tu dis ainsi ?»
Le pistolero secoua instantanément la tête.
« J'ai dit « il se peut ». Maintenant allonge-toi, Susanna. Repose-toi. »«
D'accord, mais ne me laisse pas dormir plus longtemps que prévu cette fois-ci. Je veux faire ma part du tour de garde. »«
Oui, dors maintenant. »
Elle obéit et s'endormit avant même que ses yeux ne se ferment. 10. Elle est à Central Park, et avec le froid, elle fait de la vapeur en respirant. Au-dessus d'elle, le ciel est blanc d'un bout à l'autre, un ciel de neige. Mais elle n'a pas froid. Non, pas avec son nouveau manteau en daim, ses jambières, son gilet et ses moufles rigolotes en peau. Elle a aussi quelque chose sur la tête, qui lui couvre les oreilles et les garde bien au chaud. Furieuse, elle retire le bonnet et voit qu'il n'est pas en cuir comme le reste de sa panoplie toute neuve, mais en laine rouge et verte. Devant est inscrit « Joyeux Noël ». Elle le regarde alarmée. Peut-on avoir un sentiment de déjà-vu dans un rêve ? Apparemment oui. Elle regarde autour d'elle et voit Eddie et Jake qui lui sourient de toutes leurs dents. Ils sont tête nue et elle comprend que ce qu'elle avait sur la sienne était un mélange des deux bonnets qu'eux portaient dans un autre de ses rêves. Elle ressent comme un immense élan de joie, comme si elle venait juste de trouver la solution à un problème censément insoluble. La quadrature du cercle, disons, ou la découverte du nombre premier absolu. Prends ça, Blaine le mono, que ça t'explose le cerveau, espèce de chou-chou carrément barjot. Eddie porte un sweatshirt qui dit « Je bois du Nosala ». Sur celui de Jake apparaît le slogan « Je conduis une Takuro Spirit ». Ils tiennent tous deux une tasse de chocolat chaud. C'est le chocolat parfait, Michlag sur le dessus, et une pluie de noix de muscade râpée pailletant la crème.
« Dans quel monde est-on »
demande-t-elle. Et elle se rend compte que quelque part au loin, une chorale est en train de chanter « What child is this ?»«
Tu dois le laisser faire son chemin seul, »
explique Eddie.
« Oui, là, et tu dois te méfier dedans de l'eau, »
ajoute Jake.
« Je ne comprends pas, »
dit Susanna en leur tendant son bonnet de laine.
« Ce n'était pas à vous ? Vous le partagiez, non ?»«
Ça peut être ton bonnet à toi, si tu le veux. »
propose Eddie en lui tendant sa tasse.
« Tiens, je t'ai apporté du chocolat. »«
Plus de jumeaux, »
dit Jake. « Il n'y a qu'un bonnet. Ne vois-tu pas ?»
Avant qu'elle ait pu répondre, une voix s'élève dans l'air, et le rêve commence à partir à volo. 19. dit la voix sortie de nulle part. C'est peut-être celle de Bango Chank, le grand personnage perdu. On est en 19. On est vol. À chaque mot, le monde se fait de plus en plus irréel. Elle voit à travers Eddie et Jake. La bonne odeur de chocolat chaud s'évanouit pour être remplacée par une odeur de... mercredi des... cendres et de cuir. Elle voit les lèvres d'Eddie qui bougent. Elle pense qu'il prononce un nom et alors... 11.
Il est temps de se réveiller, Susanna, dit Roland. C'est ton tour.
Elle se redressa et regarda autour d'elle. Le feu de camp avait brûlé doucement.
Je l'ai entendu bouger par là-bas, mais c'était il y a un moment. Susanna, tu vas bien? Tu étais en train de rêver?
Oui. Il n'y avait qu'un bonnet dans le rêve, et c'est moi qui le portais.
Je ne comprends pas ce que tu dis.
Elle-même ne comprenait pas ce qu'elle disait. Le rêve se dissipait déjà comme se dissipent les rêves. Tout ce qu'elle savait avec certitude, c'est que le nom qu'Eddie avait sur les lèvres, juste avant qu'il disparaisse pour de bon, était celui de Patrick Danville.